Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les quartiers populaires ont-ils la solution à leurs problèmes ? Était-il sincère ou d'abord soucieux de ne pas perdre la face ? Jean-Louis Borloo semblait à contre-courant hier au moment de commenter les annonces d'Emmanuel Macron sur les quartiers défavorisés. Quand une large partie de la classe politique se disait déçue par le contenu, lui s'est déclaré très satisfait. Tous les sujets du rapport qu'il avait remis un mois plus tôt au Premier ministre ont été cochés, s'est réjoui l'ancien ministre de la Ville. Alors ce qui est certain, c'est que l'intervention du chef de l'État sur ce sujet était très attendue, non pas parce qu'il s'agissait de la première, Emmanuel Macron avait déjà eu l'occasion de s'exprimer à Tourcoing, mi-novembre, pour répondre notamment aux élus signataires de l'appel de Grigny, mécontents de voir une baisse des crédits alloués à la politique de la Ville. Alors, si cette intervention était attendue, c'est parce que des actes, un plan, était espéré pour faire suite au rapport Borloo, justement. Alors, des annonces, il y en a eu quelques-unes hier, certaines déjà connues d'ailleurs, comme la création d'une agence nationale de cohésion des territoires ou le dédoublement des classes de CP. Mais c'est surtout sur la méthode que s'est concentré le chef de l'État. Plus question de traiter les quartiers comme s'ils étaient à part, plus question non plus de leur appliquer une politique venue d'en haut. Pour Emmanuel Macron, ce sont les habitants qui détiennent la clé de leur émancipation. Alors, les quartiers populaires ont-ils la solution à leurs problèmes ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Catherine Arnoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire d'hiver droite de Chanteloup-les-Vignes dans le département des Yvelines. Vous êtes par ailleurs justement vice-présidente de ce département et première vice-présidente de la communauté urbaine Grand Paris, Seine et Oise.
Ça.
Pour discuter avec vous, Marion Carrel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'université Lille 3, co-directrice du groupement d'intérêt scientifique Démocratie et Participation. Et vous avez publié aux éditions ONS en 2013 « Faire participer les habitants » avec un point d'interrogation, citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Et puis notre troisième invité, Pierre-Alain Raffan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche de l'Essonne, co-auteur avec Marie-Georges Buffet d'un rapport sur l'impact de la réduction des emplois aidés. Et vous êtes un des signataires d'une tribune publiée récemment dans Libération, tribune signée par des parlementaires de La République En Marche. Nous voulons plus qu'un plan banlieue. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu aujourd'hui ? Est-ce que vous n'avez pas eu moins qu'un plan banlieue hier, à travers les annonces faites par le président de la République ?
Absolument pas. En fait, l'action du président hier répondait au nom de l'événement. C'est une mobilisation de tout l'écosystème, des banlieues, pour pouvoir présenter une méthode. Et c'est ce qu'il a fait hier, et ce qui était plutôt bien reçu d'ailleurs par les acteurs que j'ai pu rencontrer par la suite.
Catherine Arnoux, vous êtes alors déjà pas mal exprimée dans les médias, je dois dire. Je vous ai vu à la télé, je vous ai entendu.
Désolée.
Alors, non, mais vous avez le droit. Pour dire notamment votre déception, en tout cas, c'était une déception au moins à chaud. Est-ce que quelques heures plus tard, c'est une déception qui est toujours là ou bien est-ce que vous trouvez finalement peut-être davantage de choses positives dans ce qu'a pu présenter Emmanuel Macron hier ?
Alors, certes, nous étions déçus hier, je n'étais pas la seule. L'ensemble des éditorialistes de ce matin ont bien exprimé la déception, pas seulement des élus, mais des acteurs associatifs. Alors pourquoi ? À titre personnel, pourquoi ? Parce que j'avais espéré que ce président oserait nous entraîner dans une grande épopée. Il a parlé de... Il fallait trouver des héros de la République sur nos quartiers. Nous, les héros, on les connaît, c'est les instituteurs, c'est les acteurs sociaux, c'est le personnel social. Enfin, les héros, on les a. Donc, j'avais espéré qu'il nous entraîne dans un... Alors, on l'appelle pas plan, ok ? On l'appelle mouvement. Puisqu'il nous avait reçu le 13 novembre, après justement cet appel de Grigny, qui faisait suite à cet été un peu meurtrier, on avait le sentiment qu'il nous avait compris et nous avait mandaté. Et donc, mandaté pour travailler avec des groupes de travail et mandaté Borloo. Donc moi j'avais espéré qu'il ne prenne pas tout, on l'imaginait, ça bruissait, mais qu'il s'appuie comme ça sur des grands thèmes, éducation, il aurait pu cibler 3-4 thèmes comme ça, en disant là on va donner un vrai mouvement qui va changer et qui va révolutionner, pas seulement nos quartiers, mais aussi nos territoires fragilisés.
Marion Carrel, vous avez vu quel type de mouvement dans ce qu'a annoncé hier le président de la République ?
Ce qui s'est passé, c'est que... On n'a rien entendu concernant l'inégalité structurelle qui est dramatique dans notre pays, entre les quartiers populaires qui manquent de moyens, qui manquent d'instituteurs, qui ont moins de services publics qu'ailleurs. C'était bien décrit dans le rapport Borloo. Et sur le plan des annonces de financement étatique sur ces questions, on n'a rien eu, donc c'est décevant. Et en revanche, ce qui a été choisi par M. Macron, ça a été d'opter pour la question de la méthode, d'une part. Alors, il faut faire du participatif, etc. Et d'autre part, de parler de la diversité ethno-raciale, qui sont deux manières, alors peut-être malines, habiles, on connaît les discours de M. Macron sont plutôt habiles, d'essayer de renvoyer la balle et finalement de squeezer ce mécontentement des élus de la République qui se sont exprimés de maintes manières.
Alors, on va avoir l'occasion justement de revenir sur ce discours de la méthode, puisque c'est en partie ce qui nous a inspiré le titre pour l'émission de ce soir. Je rappelle, les quartiers populaires ont-ils la solution à leurs problèmes? Et sur la question du financement, alors c'est vrai que le plan Borloo, duquel était censé découler une série des mesures annoncées par Emmanuel Macron, lui était budgété, c'était à hauteur de 48 milliards d'euros. C'est vrai que hier, dans les annonces du président de la République, Pierre-Alain Raffan, il n'y a pas de budgétisation. Est-ce que c'est... Alors, évidemment, ça n'est pas un oubli, mais pourquoi avoir choisi, justement, de ne pas annoncer ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un budget à hauteur de l'urgence qui est celle, semble-t-il, à laquelle sont confrontés les quartiers populaires?
Alors, de mémoire, les 48 milliards n'étaient pas ceux du plan Borloo. De son rapport, c'était...
C'était peut-être une évaluation, alors, des mesures, c'est ça?
En fait, c'est le budget qui a déjà été utilisé dans le cadre de la politique de la ville, mais dans le cadre du plan de Borloo, c'était pas 48 milliards qui étaient chiffrés sur sa vingtaine de propositions. Le plan Borloo, pour revenir à la genèse, en effet, a été demandé par le président de la République pour faire émerger des idées. Il y a eu énormément d'acteurs qui ont participé, que ce soit des habitants, des élus. Je pense que vous avez sûrement participé.
C'est dans le groupe éducation.
Exactement, à ces sujets. Et ça a permis d'avoir un plan systémique. Ça, on l'a bien vu. Maintenant, un rapport est là pour inspirer. Et c'est cette inspiration, en fait, qui a donné lieu hier, dans le cadre de la mobilisation, à l'annonce d'une méthode. Parce que ce que nous remontent, nous, les habitants, moi aussi, je suis député sur la 10e circonscription de l'Essonne, qui intègre Grigny, pour le coup, et d'autres quartiers, hein. Pour échanger beaucoup avec les jeunes de banlieue, ce qui nous remonte, c'est on n'est jamais impliqué, on ne nous demande pas notre avis, on a des idées, on veut faire, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc on n'est pas considéré d'égal à égal avec le reste de la France. Donc oui, en fait, ce qu'a proposé...
Pierre-Alain Raffan, sur l'absence justement alors de plan systémique, sans reprendre bien entendu exactement les mesures du plan Borloo, parce que ça n'arrive jamais qu'on reprenne intégralement un rapport, enfin, en tout cas à connaissance, je ne crois pas que ça soit déjà arrivé, mais pourquoi en tout cas ne pas avoir proposé, même avec des modifications, des nuances, un plan systémique? C'est ça aussi qui semble être, en tout cas, assez nouveau. Mais est-ce que ça partait quoi d'un constat? C'est-à-dire que les précédents plans systémiques pour les banlieues avaient systématiquement échoué? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre?
Le président l'a rappelé hier, et je pense qu'on le constate aussi tous dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il y a eu des politiques de la ville depuis une quarantaine d'années. Il y a eu des améliorations, notamment avec l'ANRU, ce qu'avait fait Borloo à l'époque.
Mais, la rénovation urbaine.
Exactement. Mais on n'a pas constaté, et les habitants eux-mêmes ne constatent pas une amélioration de tous ces plans qui ont été lancés depuis le début dans le quotidien. Et là, ce qu'a capté le président Macron, c'est cette envie de participer, de co-construire avec tous les acteurs de l'écosystème qui étaient réunis hier et qui veulent avoir cette confiance de la République. Et donc, le défi que lance Emmanuel Macron, c'est de dire, il y a eu des idées, il y a eu des plans, moi je vous donne jusqu'à juillet, pour me refaire avec le conseil présidentiel des villes, proposez-moi à juillet un plan qu'on va chiffrer et que vous allez mettre en œuvre avec un rythme qui est très très qui est très rapproché, puisqu'il y aura un suivi de plan d'action tous les deux mois à partir de juillet.
Alors c'est vrai que parmi les formules qu'a utilisé Emmanuel Macron et qui ont été pas mal reprises, il y avait notamment cette idée que les politiques de la ville et les plans, ils avaient le même âge que lui, puisqu'on célébrait, on commémorait l'an dernier, en 2017, les 40 ans de la politique de la ville. Et il a dit ceci, le président de la République, on est au bout de ce qu'elle a pu apporter. Est-ce que vous partagez ce constat, Marion Carrel et Catherine Arnoux, de grands plans systémiques qui aurait, si ce n'est entièrement échoué, mais enfin en tout cas suffisamment échoué pour qu'on soit obligé aujourd'hui de penser les choses autrement. Marion Carrel.
Il faut quand même dire une chose, c'est que ce qu'on entend depuis hier, c'est l'État d'un côté qui dit nous ne pouvons pas dépenser, on ne peut pas avoir de plan systémique, et les élus en face qui sont un petit peu en colère et qui sur la question de la méthode, de la participation et de la diversité sont un petit peu sur la réserve aussi. Qui va trinquer dans cette affaire? Ce sont les 6 millions d'habitants qui habitent ces quartiers. Je voudrais aussi redire que l'été dernier, la genèse de tout ça, l'été dernier, il y a quand même eu des coupes drastiques dans la politique de la ville qui sont extrêmement graves. Coupes claires dans les emplois aidés. C'est les emplois aidés, c'est quelque chose d'extrêmement important, non pas seulement pour donner de l'emploi aux personnes dans les quartiers, mais pour faire tenir ces quartiers. La vie associative est indispensable.
Oui, c'est mais Marion Carrel, la justification de l'absence d'un plan systémique, elle est bien, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, elle part d'un constat que ces plans-là, ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous partagez justement cette analyse ?
Je ne le partage pas. Ce que je pense, c'est que 1% à peine du budget de l'État pour la politique de la ville, ça n'est pas assez. Au vu des inégalités territoriales, je le répète, qui sont dramatiques, 30% de besoins en plus, 30% de moyens en moins pour ces communes, des quartiers populaires. On ne peut pas continuer comme ça. Donc 1%, c'est trop peu. Donc on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Et par ailleurs, sur le reste, les 99% restants du budget, eh bien, on ne sait pas si les services publics vont dans ces territoires ou pas. Ce qu'on mesure, les scientifiques le mesurent, c'est que les inégalités territoriales sont fortes et que donc sur la réussite de la politique de la ville, on ne peut pas s'en tenir à cette question de dire rien n'a marché. Il y a des choses qui ont marché. On a beaucoup axé sur l'urbain avec le plan Borloo. Je reviens là d'un colloque sur le droit à la ville à Nanterre où une quantité d'associatifs, d'universitaires, d'habitants disent on n'a pas réussi à faire exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on démolit, on reconstruit. C'est une chose peut-être cosmétique qui va bien, mais il n'y a pas que ça à faire pour améliorer la situation des quartiers.
Catherine Arnaud.
Alors, le président lui-même a dit que la politique de la ville avait marché. Donc là, on peut juste l'écouter. Et puis maintenant, moi, je vais vous dire, la politique de la ville, elle a marché. Parce que si elle n'avait pas marché, il n'y aurait pas ce sas républicain que sont les banlieues qui fait des vrais parcours de réussite. Mais pas des parcours exceptionnels qu'on voit à la télévision.
On pourrait
des
dire,
vrais parcours de réussite réguliers.
On pourrait objecter, Catherine Arnaud, si elle avait marché, elle n'existerait plus.
Eh bien non. Pourquoi elle n'existe ? Pourquoi elle existe toujours ? Et le président l'a dit aussi. Du coup, c'est moi qui me fais son défenseur. Non, mais le paradoxe
j'en
doit
suis
toujours
bien heureux
exister.
De l'entendre.
Oui, parce qu'il dit quelque chose que je porte depuis 10 ans, mais peu importe, on est nombreux à le dire. Il a bien dit l'État a un rôle et une responsabilité énorme dans nos territoires. L'État a continué à mettre les plus précaires, les plus pauvres, les plus faibles dans ces territoires. Ce qui fait que lorsque des gens vont mieux, parce que la politique de la ville les accompagne, parce que la culture les accompagne, parce que le social les accompagne, qu'ils vont mieux et qu'ils ont un parcours de vie qui est un parcours normal, c'est-à-dire qu'ils s'en vont, ils sont remplacés par des plus précaires. C'est ce qu'on dit depuis des années. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit que la politique de la ville ne marche pas. Mais regardez ce qui reste sur nos territoires. Mais regardez, en plus, dans la région parisienne, c'est assez marqué. Regardez combien nous sommes les lieux de la solidarité nationale, les seuls lieux de la solidarité nationale, parce que c'est là où il y a du logement social, c'est là où on s'est accompagné socialement les habitants. Alors quand vous disiez, votre titre, c'est est-ce qu'il y a dans nos territoires les solutions des problèmes, les habitants eux-mêmes, depuis des années, créent leurs solutions, les habitants créent les mouvements associatifs que l'on accompagne, qui font l'associatif chez nous, c'est la première démocratie. Il y a la démocratie de l'élection, puis il y a la démocratie du mouvement associatif. Je vais vous dire, au-delà de l'appel de Grigny, vous savez, c'est cet appel qui a été ce mouvement, 1000 personnes réunies en 3 semaines, parce que vraiment, on a trouvé ça d'une injustice en plein mois d'août. Mais derrière ça, on a créé ce qu'on appelle les territoires gagnants. Et depuis 8 mois, on va tous les mois dans un territoire différent de banlieue et sur un thème différent. On a fait l'emploi, la formation, la culture, le sport à chez mon copain Stéphane Gatignon.
Ex-maire de Sevran, qui a démissionné il n'y a pas très longtemps.
Et à chaque fois, ce qu'on a demandé aux habitants, aux associations, grandes et petites, mais surtout petites, c'est d'expliquer leur savoir-faire, leurs idées, comment ils étaient source d'un progrès sur le territoire. Eh bien, on a des milliers de solutions qu'on voudrait un peu élargir, parce qu'il y a des gens formidables qui font des choses. Donc oui, les solutions des problèmes, elles sont sur place aussi.
Et ça, c'est bien ce que dit le président de la République. Alors là, je me réfère plutôt au discours de Tourcoing, hein, qui date de novembre dernier. Alors, il renouvelait la priorité à donner à une politique territorialisée, mais en disant que ça, il faut pas l'abandonner, mais ça ne suffit plus. Et il ajoutait ceci, on a oublié qu'il y avait des gens, et les gens, ils veulent pouvoir bouger, ils veulent pouvoir évoluer dans la société. Est-ce que ça ne rejoint pas les thèmes sur lesquels vous travaillez, Marion Carrel, notamment cette idée de donner du pouvoir d'agir aux habitants et d'aller vers cette politique d'émancipation dont parle le président de la République?
Le discours de Tourcoing du président Macron était effectivement intéressant, encourageant. Bon, on commence à avoir beaucoup de discours à la suite. Ce qui se passe sur la question de la participation, c'est que j'ai bien l'impression que le discours d'hier, qui est de dire nous allons voir, nous allons faire, nous allons voir en juillet, ça dose sur une certaine conception de la participation qui est de dire les gens ont les solutions et ont toutes les solutions. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler une conception néolibérale de la participation, hein, c'est le « do it yourself ». Et donc, ça va très bien avec une baisse des services publics, une coupe dans les services publics. Donc, une certaine vision de la participation qui est de dire « c'est toute la société civile qui détient toutes les solutions », elle abandonne en réalité cette population. Maintenant, évidemment, on est nombreux à travailler sur ces questions, évidemment qu'en France, les collectivités locales, l'État aussi, a beaucoup de chemin à faire encore sur les questions de transversalité, de concertation, de co-décision. Là-dessus, je pourrais en dire beaucoup plus. Mais si c'est uniquement en disant, on fait des coupes claires, hein, moins 46 millions d'euros pour la politique de la ville l'été dernier, des emplois aidés en moins, moins d'APL, moins d'argent pour les bailleurs sociaux. Et qu'en parallèle, on dit la solution, elle est chez les habitants, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Pierre Larafant.
Quand un État vous fait confiance et vous soutient, il ne vous abandonne pas. Et c'est ce qui a été dit hier. Le président Macron a rappelé qu'il voulait une société de l'engagement, de l'émancipation, pour que chacun retrouve sa dignité. Ça a été bien dit.
Mais ça veut dire quoi, une politique d'émancipation, d'ailleurs, appliquée à ces quartiers?
En fait, appliquée à toute la France. Et il veut qu'à chaque instant, chacun, ça c'est la vision ultime, hein, puisse s'émanciper, réaliser ses rêves et que l'État puisse l'aider sur tout le chemin de la vie. Ça c'est l'objet même de la politique d'Emmanuel Macron. J'entends que les budgets ont baissé. Pas partout. Ça a baissé dans 319 villes. Je sais que même, je prenais le cas de Grigny. Grigny, ils ont une dotation de solidarité urbaine qui a bien augmenté.
On parle de 46 millions de cet été.
Non mais sur les politiques après qui sont appliquées, Grigny a eu près de 12 millions de l'État aussi pour avoir un plan spécifique également sur ces quartiers. Et là où je vous rejoins, et là où on se rejoint, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est redonner de la confiance, faire confiance à ces acteurs, et on se bat tous les jours, notamment sur l'aspect associatif. Et je suis bien placé parce que j'ai fait un rapport avec Marie-Georges Buffet sur la réduction des emplois aidés dans le secteur associatif, sportif et culturel. On en a fait des préconisations. Il y a deux points qui ont été repris hier par le président de la République. Et on continue, dans tous les cas, parce qu'on veut donner...
Lesquels ?
Alors, le fait de pouvoir avoir une lisibilité dans le système qui est ultra complexe. On empêche presque les bénévoles, tellement le système est complexe, d'avoir accès à des subventions, d'avoir une lisibilité à 3-4 ans sur les financements publics, ouvrir aussi à du privé, et sortir de la logique d'appel à projet, ce qui met souvent les associations en concurrence.
Et ça, c'est ce qui crée une forme d'insécurité de manière assez régulière.
Et on va travailler après avec les députés de la République En Marche et d'autres sur des outils et des idées qui vont permettre à toutes ces associations et ces bénévoles qui font un travail de fourmi extraordinaire dans le quotidien de pouvoir apporter ces solutions, parce qu'elles existent en local. Et ça, j'en suis persuadé.
Alors, sur la question de la consultation des habitants, enfin, sur le fait de les impliquer aussi pour définir leurs attentes et leurs besoins, Emmanuel Macron a eu un certain nombre, là aussi, d'éléments de langage. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le présenter. Je voudrais vous faire écouter un extrait. Alors, Catherine Arnoux, vous m'avez dit, avant de rentrer en studio, j'espère que vous n'avez pas pris l'extrait sur les mâles blancs. Eh ben non, c'est pas cet extrait-là qu'on a choisi, c'est celui sur les mamans.
Les mamans, elles font pas de politique symbolique, elles font la politique pour leurs enfants, leurs époux, leurs frères ou leurs propres pères ou leurs sœurs. Ce sont celles qui généralement concentrent les plus grandes difficultés dans les quartiers. Ce sont celles parfois qui sont le plus battues. Et donc en juillet, on continuera ce travail avec un point de rendez-vous, des engagements qui seront pris sur la base de ce que j'ai annoncé aujourd'hui. Et un point d'étape concret, mais on donnera aussi la parole aux mamans. Certains diraient de Ouagadougou au fin fond du Pérou, que sont celles qu'on aime, mais on a besoin d'elles. Et elles seront un instrument essentiel de cette réactivation, de ce réveil citoyen que nous sommes en train de construire.
Voilà, alors pour l'anecdote de Ouagadougou au fin fond du Pérou, manifestement c'est un extrait d'un texte du rappeur Oxmo Puccino. Mais sur le fond, Catherine Arnoux, ça paraît à la fois anecdotique, ça paraît assez évident, et peut-être que c'est quelque chose d'important finalement que de se dire aussi, il faut penser à ces mères qui peuvent parfois, enfin assez régulièrement, être aussi des mères qui se retrouvent seules et qu'on n'écoute pas aujourd'hui. Est-ce que ça passe aussi par là? Un changement de méthode et un changement de contenu de la politique de la ville.
Mais venez sur nos territoires, les maires, c'est les remparts, les grands remparts de la citoyenneté. Les maires, c'est 9 fois sur 10 celles qui éduquent. Nos populations, c'est aussi des populations dites familles monoparentales. En fait, ce sont des mamans qui travaillent et qui ont, quand elles le peuvent, et qui ont des enfants, et c'est elles qui éduquent. C'est elles les remparts. Bien évidemment, c'est de plus en plus, c'est elles qui font partie des associations. C'est elles qui nous interpellent le plus souvent. C'est elles qui sont vraiment au plus près et qui ont des rêves pour leurs enfants. Vraiment. Quand le président dit l'émancipation, oui, ben moi aussi, je dis sans arrêt, moi, à ces mères, à ces jeunes filles, à ces gamins, rêvez. Rien ne doit vous être interdit. Mais derrière tout ça, il faut pas seulement le dire. Il faut pas être incantatoire avec nos habitants. Il faut leur donner les moyens des réseaux, les moyens de la culture. C'est aussi notre job hein, de leur apporter ce qui spontanément n'est pas sur place, mais dont ils ont besoin pour leur donner l'émancipation. Pour revenir aux associations, il y a une chose qu'on demande depuis des années, et chiche, monsieur le président, chiche, jouez sur au minimum le triennal de subventions, arrêtez de fragiliser les associations, je le demande à l'État depuis des années, arrêtez d'année après année, c'est pas compliqué, là l'État vient juste de finir la négociation sur mon territoire, on est en mai, l'argent arrivera en juin, et en janvier on va demander aux associations de relancer un appel à projet. C'est épuisant pour ces acteurs bénévoles associatifs. Chiche, 3 ans, et certes on évalue, mais on vous donne les moyens de souffler, les moyens de travailler, les moyens d'arrêter de vous épuiser. Chiche, mais personne ne l'a jamais fait. Alors on va bien voir.
C'est ce qui a été annoncé hier, c'est ce qu'on préconise.
Mais entre une annonce et des actes, moi je suis maintenant extrêmement méfiante, donc chiche, et puis on va voir dans la loi de finances 2019 si justement il y a ça dans les actes, parce que les associations, elles vont souffler, déjà que les contrats aidés avaient été tellement compliqués, si au moins on leur donne cette espèce d'espoir, ça sera très bien.
Sur la question de l'émancipation et en tout cas de donner des outils qui peuvent aussi permettre d'être traités avec davantage d'équité, notamment dans la sphère professionnelle. Alors, il y a quand même eu des choses qui ont été annoncées hier. Par exemple, le fait de réserver 30 000 places de stage pour moitié dans le public, pour moitié dans le privé, pour les stages de troisième, élargir les testings anti-discrimination dans les grandes entreprises. Alors, ça fait peut-être pas un plan systémique, ça, Marion Carrel, mais est-ce que ce sont des mesures qui vont plutôt dans la bonne direction?
C'est quand même des mesures qui sont pas extrêmement élevées ni originales. L'élu, la maire de Bondy ce matin, disait sur une autre radio que par exemple, l'idée de dire on va vous donner 1 000 euros pour chaque crèche construite, c'est pas assez. Les collectivités locales n'ont pas assez d'argent pour construire ces crèches. Ça coûte à peu près 12 000 euros par place de crèche. Donc donner 1 000, l'État ne peut pas donner que ça.
Il y a 1 000 par place de crèche.
Voilà, ben c'est pas suffisant. On pourra pas
construire, les collectivités ne pourront pas charger pour la collectivité pour une crèche.
Je voudrais revenir sur ce fameux propos des mamans. Outre le fait que c'est un petit peu, populiste, un petit peu insultant de parler des mamans, ce sont des mères de famille qui portent effectivement le poids des inégalités structurelles, des inégalités de revenus, de tout un tas de phénomènes et qui portent les questions à bout de bras et que j'ai pu rencontrer.
On va parler des mamans, je parle de ma maman et c'est pas.
Oui, mais c'est une manière de dire, vous savez, on parle tout le temps des habitants des quartiers populaires sous un langage. Alors on va parler, on les infantilise un petit peu. Il y a eu un autre passage du discours où il a parlé des radicalisés, alors en disant les personnes radicalisées, il faut des anticorps dans la société, comme si c'était pas des êtres humains. Donc il y a une manière dont, bon là ça c'est toute la question du vocabulaire qu'on utilise à l'égard des quartiers populaires, mais bon passons. En tous les cas, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la question de l'organisation de cette participation. Il y a très rapidement 3 angles à prendre. Je ne suis pas sûre que M. Macron les prenne dans le sens où il est plutôt une pratique assez jupitérienne de son pouvoir. Et donc installer une commission présidentielle de la ville à côté de lui, alors qu'il y a un conseil national des villes avec différents collèges. D'ailleurs, c'est un petit peu les mêmes personnes qui sont prises, mais seulement les habitants et les personnalités qualifiées. Bref, passons. Et ces 3 modes, c'est partager le pouvoir. On n'en parle pas du tout, partager le pouvoir, notamment sur les projets en rue, sur les projets de rénovation urbaine où la codécision n'existe pas, les conseils citoyens fonctionnent très mal. La deuxième chose à faire, c'est à améliorer les manières d'organiser la participation. Et pour ça, il faut former les personnes, et notamment les élus et les techniciens. En France, on n'est pas du tout au niveau sur les questions de concertation. Et enfin, troisième chose, encourager la vie associative, la vie citoyenne dans ces quartiers, notamment en faisant appel, par exemple, à un fonds d'initiative citoyenne que l'on pourrait prendre une partie de l'argent de la démocratie représentative pour la donner à la démocratie participative et pour accompagner la constitution d'une parole citoyenne dans ces quartiers qui est complètement bridée, y compris par des questions locales aussi. Hein. C'est vrai que le président a beaucoup parlé de clientélisme, ça a pu froisser, mais il y a parfois des choses qui peuvent se passer qui sont assez graves dans nos quartiers.
Pierre Larafant.
Je pense que ce qui perturbe, c'est le changement de méthode. Einstein disait, je me permets de citer du Einstein, je ne connais pas beaucoup de phrases, hein, c'est pour ça, il disait que la folie, c'est de recommencer à chaque fois les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Là, on change radicalement de méthode. Ça a pu perturber certains acteurs. Par contre, j'ai vraiment échangé hier soir, hein, ce matin, avec d'autres acteurs qui se sont dit, mais excellent, on a une voix royale pour pouvoir nous exprimer, d'être traité d'égal à égal, sans infantilisation, avec un soutien permanent de l'État. Et c'est ça qu'on veut, finalement, c'est changer cette méthode. Quand j'entends sur l'aspect des consultations, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Il passe aussi par les députés, par sa majorité, il passe par ce conseil présidentiel. Il y a le Conseil national des villes, j'en fais partie, hein, je suis administrateur du CNV, comme on l'appelle, mais on ne peut pas tout faire tout le temps. On sort du cumul, parce qu'on ne peut pas être député, être au Conseil national des villes, mener la politique en local, au national, c'est impossible. C'est pour ça qu'on fait émerger une nouvelle génération d'acteurs. Ils sont très satisfaits d'avoir cette chance de pouvoir s'exprimer, de monter des projets main dans la main avec la République.
C'est parce qu'on parle d'infantilisation. Vous qui êtes élu local, Catherine Arnoux, je rappelle, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vos collègues, maires de villes de banlieue, ressentent une forme d'infantilisation? Ou bien est-ce qu'au contraire, là, justement, dans ce changement de méthode, il y a le sentiment d'être davantage pris en compte pour le pouvoir de décision que vous pouvez avoir au niveau local?
Alors, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps. Les maires de banlieue, les élus de banlieue ont toujours été infantilisés par l'État. Là, ce n'est pas les habitants dont il s'agit. Et les maires de banlieue, je vous le rappelle, sont d'abord des habitants. Tous les maires sont d'abord des habitants. On a toujours été infantilisés. L'État nous a toujours demandé de justifier au centime près et de négocier l'ensemble de politiques qui, dans les territoires dits normaux, et je ne supporte pas ce terme, il faut bien en employer un, s'appellent des dotations et ne se discutent pas. Voilà, il y a une dotation globale de fonctionnement, il y a une dotation solidarité humaine. Et nous, dans les territoires de la politique de la ville, nous avons un certain nombre de financements dits exceptionnels qui ne font que remplacer le droit commun qui n'existe pas. C'est-à-dire que les services publics, il y a longtemps qu'ils sont partis, moins il y a de services publics, plus ils ont commencé par disparaître sur nos territoires. Il y a la poste se sauve, la médecine se sauve, mais depuis de nombreuses années, mais c'est pas parce que il y a moins de médecins, donc il y a d'abord moins de médecins là. C'est là où il y a les plus grandes difficultés, où la culture est la moins présente. Les services publics qui restent sur notre territoire, ce sont les services publics municipaux, parce que nous sommes obligés, et il faut laisser le service public au milieu de nos territoires. Il y a comme ça que la République peut s'exercer.
Alors justement sur ce sujet, Catherine Arnoux, et d'ailleurs je vous pose la question, enfin je vais vous faire réagir et Pierre-Alain Raffan et Marion Carrel également sur cette question. Dans les annonces qui ont été faites hier par Emmanuel Macron, qu'il a reprise, même en la modifiant un petit peu du rapport Borloo, il y a cette idée de créer une instance de recours sur l'équité territoriale pour les habitants et pour les élus. Elle sera créée normalement en juillet. Elle permettra à ceux qui considèrent que leur territoire est sous-doté, c'est-à-dire n'est pas traité de manière équitable, en matière d'accès aux droits et aux services. Dans le rapport Borloo, c'était une cour, avec peut-être l'idée aussi d'avoir un pouvoir peut-être de sanction. Enfin là, on n'en sera pas là. Ça sera une instance de recours, mais c'est déjà finalement une avancée par rapport à ce qui existe. En tout cas, est-ce que c'est un outil qui vous paraît intéressant, Catherine Arnoux?
Mais oui, c'est l'occasion de montrer, ça sera très vite montré, la Cour des comptes le montre au niveau financier, mais ça sera très vite montré qu'il y a une vraie inégalité et une iniquité territoriale depuis très très longtemps. Et puis, c'est pas seulement dans les moyens mis, c'est aussi dans l'image qu'on donne. Parce qu'il faut à un moment donné défendre nos territoires sur l'image qui est donnée. Et alors derrière, c'est moins de moyens, moins de services publics, moins de transports, tout un tas de choses, mais ça sera très vite décrit, c'est déjà décrit. Mais c'est aussi, à mon avis, il faut ouvrir jusqu'à l'image des quartiers, parce que c'est extrêmement nuisible pour nos habitants que ça relève toujours d'une image délétère qui est très régulièrement diffusée.
Pierre Larafan, cette instance de recours sur l'équité territoriale, elle va ressembler à quoi? Elle va fonctionner comment?
Elle n'est pas encore définie, mais en tout cas, dans le principe, je trouve que c'est un point essentiel. Et là, tout le monde se retrouve là-dessus. J'ai pas entendu une seule personne, toute tendance politique confondue, qui n'est pas d'accord avec le point qui a été d'ailleurs soulevé dans le rapport Borloo. Et ce qui nous permet, et là où je vous rejoins, hein, c'est d'avoir déjà des indicateurs clairs, qui seront partagés de tout le monde. Et plus on va ouvrir ces données, plus on va pouvoir constater des inégalités à corriger par la suite. Et ça, c'est un vrai outil de pilotage, déjà, pour l'État, pour les collectivités, pour les citoyens aussi.
Et pas que pour les quartiers d'ailleurs populaires, parce que ça concerne aussi le monde rural.
Il faut même sortir de cette logique de quartier populaire. Parfois, il y a des territoires qui sont retirés, où il y a parfois moins de moyens, moins de services publics. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment la partie factuelle et plus déclarative de ces sujets pour pouvoir corriger point par point dans tous les territoires, que ce soit sur les territoires ruraux, dans les quartiers ou parfois aussi dans les Outre-mer. Qui sont si touchés par ces phénomènes.
Marion Carrel.
Oui, c'était la proposition 18 du rapport Borloo qui était intéressante de mettre en place cette cour d'équité. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai le sentiment qu'on va avoir un outil de plus qui permet de mesurer. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre les inégalités territoriales. Déjà, le fait de mesurer est une bonne chose.
Oui, parce que pour lutter, il faut d'abord savoir contre quoi on lutte.
Alors, il y a des rapports, il y a quand même des rapports qui sont sortis. Il y en a un rapport parlementaire qui va sortir fin mai sur le département de Seine-Saint-Denis qui va annoncer des choses terribles sur cette inégalité. Hein. En gros, un exemple, l'école la mieux dotée en moyen au niveau de la Seine-Saint-Denis est moins bien dotée que la moins bonne école de Paris. C'est pour donner une idée du décalage de dotation budgétaire qui est donnée à ces quartiers.
Ça peut peut-être d'ailleurs aussi permettre d'aller contre une idée reçue qui est qu'on déverse des milliards dans les banlieues.
Exactement, qui est une banlieues idée fausse. Les banlieues ont moins, elles ont plus de besoins et elles ont moins de financement. Maintenant, c'est un petit peu comme sur la lutte contre les discriminations. Mesurer, c'est une chose. Nous attendons des mesures pour lutter contre les discriminations. Le testing, oui, pour mesurer, mais on a quand même eu des rapports. J'ai l'impression qu'on repart encore sur une séquence d'études et qu'on voit toujours pas venir un investissement fort de l'État avec une incitation à changer de méthode, sur laquelle je suis tout à fait d'accord, mais en tout cas cet investissement fort de l'État pour lutter contre les inégalités et les discriminations, sans quoi on va droit dans le mur, excusez-moi, mais là toutes les conditions sont réunies pour avoir des choses dramatiques dans
notre
pays.
Ça peut être l'objet du testing, pour le coup. C'est une action concrète, il peut y avoir du name and shame derrière. Ça fait partie des actions concrètes qui ont été annoncées hier.
Cette instance d'équité territoriale, de recours sur l'équité territoriale, vous l'avez dit, mais je le répète, hein, elle n'est pas censée concerner uniquement les quartiers défavorisés, mais elle s'appliquera, en tout cas, elle sera accessible à l'ensemble des territoires. Et ça aussi, ça traduit quand même un changement de méthode qu'on pouvait d'ailleurs retrouver dans la tribune que j'évoquais en début d'émission, Pierre-Alain Raffan, que vous avez signé avec d'autres parlementaires de La République En Marche, dans laquelle vous disiez notamment ceci, les banlieues ne doivent pas être traitées comme étrangères à la République et le soutien de l'État quasiment assimilé il y a de l'aide au développement. Le traitement spécifique doit être remplacé par le même accès aux droits pour tous les Français. Donc il ne faut plus traiter spécifiquement les quartiers défavorisés.
Ce qu'on dit, surtout en substance dans la tribune et dans le groupe qu'on a monté à l'aide de Saïd Hamada à l'Assemblée nationale, c'est de se dire qu'à partir du moment où on fait une politique de la ville, on a une politique qui est différente entre la République et certains territoires. Nous, ce qu'on veut, c'est une seule République. Donc il y a un plan de mobilisation d'urgence, et d'où la mobilisation qui a été annoncée hier, pour rectifier les inégalités là où il y en a. Mais on ne peut plus, à terme, devoir parler de politique de la ville, ou de quartier en politique de la ville. C'est-à-dire que, de fait, dès le départ, on sépare la France de ces quartiers-là. Donc, nous, l'idée, c'est de corriger ces inégalités-là, une par une, avec un plan précis qui sera travaillé avec l'écosystème des banlieues, et après d'arriver, de converger vers cette République unique.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche, Catherine Arnoux ?
Mais vous savez que nous rêvons que de sortir de la politique de la ville, qu'elle n'ait plus lieu d'être.
Mais vous parliez de rêve tout à l'heure.
Le jour où la France sera équitable, il n'y aura plus de politique de la ville. Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place ? Elle a été mise en place pour amener des... un peu plus là où il y avait un peu moins, là où il y a un peu moins en moyen, mais là où il y a beaucoup plus de difficultés. Et le chiffre que vous donniez tout à l'heure, il est significatif. 30% de plus d'enfants, 30% de moins de moyens. Donc pratiquement toutes les collectivités, ça fait une moyenne. Moi, mais c'est juste un exemple, mais c'est un exemple de tout. Pratiquement 50% de ma population a moins de 24 ans. Bien évidemment, les moyens qui sont mis à la disposition de ces jeunes sont bien inférieurs à une ville classique sur laquelle... Et en plus, nous allons avoir, et là personne n'en parle encore, et vous allez voir qu'il va falloir s'en occuper, dans nos territoires qui ont été créés dans les années 70, nos populations sont en train de se séparer en deux grosses tranches, 50% de moins de 24 ans, presque 25 à 30% de plus de 75 ans. Parce que les populations vieillissent sur place et n'ont pas bougé. Et il va y avoir, et ça va nous sauter à la figure. Parce qu'il va y avoir une obligation de prendre en charge nos seniors, qui sont les seniors de nos quartiers.
Et qu'est-ce que ça serait justement d'ailleurs l'objectif ultime finalement de ces politiques, appelons la politique de la ville, ou on peut aussi changer d'appellation, mais ce serait quoi? Ce serait que ces populations qui vivent dans ces quartiers, alors qu'ils sont des quartiers défavorisés, mais appelons-les plutôt quartiers populaires, ce qui est quand même plus... valorisant, peut-être plus attractif en soi, ça serait quoi? Qu'elles aient envie de continuer à y vivre? C'est ça l'objectif, par exemple?
Mais vous savez qu'une grosse partie de nos populations ont envie de continuer à y vivre, ne demandent pas à partir, sont attachées. Les nombres de mutations qui se fait à l'intérieur d'une même ville sont considérables. Les gens sont attachés à leur quartier. Donc il y a une partie de la population qui bouge naturellement. Non, ce qu'il faut, c'est arrêter de rajouter de la difficulté à la difficulté. Nous, on veut bien prendre en charge, accompagner, offrir, ouvrir les yeux, proposer des choses nouvelles, et puis accompagner vers une réussite, c'est nos missions. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme si on avait dit qu'on allait écoper la baignoire et qu'on n'avait jamais fermé le robinet. C'est ça notre problème. Mais sinon, la politique de la ville va s'arrêter le jour où la solidarité nationale sur les plus précaires sera étalée sur l'ensemble de la France, et le jour où on aura mis à peu près les mêmes moyens pour les mêmes difficultés.
Marion Carrel.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette histoire d'égalité, d'équité républicaine de tous les territoires devant les services publics n'est pas réglée. Tant qu'elle n'est pas réglée, la politique de la ville fait un peu du pansement, comme vous aviez fait dans une émission précédente, comme vous en aviez parlé, un pansement pour essayer de parer au plus pressé. On n'est pas du tout au niveau de la hauteur des enjeux d'inégalité qu'on a dans notre pays. Par ailleurs, il y a quand même une question et une démarche dans la politique de la ville qu'il faudra garder de toute manière, qui est la question du développement social urbain, qui est la question de l'éducation populaire, qui est la question de l'accompagnement des habitants dans certaines démarches et de l'accompagnement des élus et des techniciens aussi pour qu'ils comprennent enfin le langage de la population, leurs projets qui les accompagnent. Et donc, par exemple, sur les emplois francs, on a eu des zones franches urbaines, on sait bien que faire des exonérations fiscales aux entreprises ne suffit pas pour créer des emplois. Et quand on crée des emplois, ça ne suffit pas pour que les jeunes, notamment de ces quartiers populaires, y trouvent leur place. Il y a besoin d'un travail avec l'éducation populaire, avec le développement social, pour accompagner tout ça. Alors, on trouve de l'argent pour faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, ça on le trouve. Par contre, on n'arrive pas à trouver l'argent pour la politique de la ville. C'est quand même assez fâcheux.
Pierre-Alain Raffan, et ce sera la conclusion.
Non, tout ça pour vous dire que là où on se rejoint, c'est que il y a des priorités qui sont l'éducation, la sécurité, on l'a entendu parler hier, la santé et l'emploi. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut rapprocher tous ces mondes, dont l'éducation populaire, et on se bat pour, notamment avec tout le tissu associatif, et ça c'est une des priorités à titre personnel. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une nouvelle méthode, nouvelle philosophie, et qu'on passe à l'action. Pour l'instant, tout ce qu'on a annoncé, on l'a fait, et on va continuer à le faire. Donc, on va le construire avec tous les acteurs possibles, et on va le faire, en tous les cas.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Pierre-Alain Raffan, je rappelle, député de l'Essonne pour La République En Marche. Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Et Marion Carrel, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Lille 3, puisque vous avez eu la gentillesse de citer l'émission que j'ai faite récemment sur ce sujet, politique de la ville, la politique de lancement, du pansement, pardon. C'était avec le sociologue Renaud Epstein et c'était dans le dernier numéro de Politique que vous pouvez réécouter, comme cette émission d'ailleurs. Sauf que là, c'est sur le site de France Culture, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Isolte Sicard, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Guy Linmège.